Donc le sujet de ce matin, ça va s'afficher. Est-ce que vous le voyez ?
Amen.
Amen. Il y a quelqu'un qui le voit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre de vie. Vous le voyez dans ma forêt ? J'ai souvent des prédications sur les arbres. Bon, il faudrait que je change de thème. Mais en tout cas, la nature souvent nous enseigne des grandes choses. Mais cet arbre-là, enfin ces deux arbres-là, avaient vraiment quelque chose de très particulier. Et peut-être on peut se dire que ça concernait Adam et Ève. Ben oui, souvent on s'est dit, mais ben à leur place, s'ils avaient pu éviter ça quand même. Mais donc, dans quoi je veux vous amener, c'est que ça peut nous concerner, enfin, ça nous concerne vraiment, cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, il y a des choses immenses à dire, donc ma prédication de deux heures, je l'ai réduite, je ne sais pas à combien, on va voir. Donc, dans Genèse 2, c'est là où on retrouve tout ce passage-là. Donc, lorsque l'Éternel Dieu, fit la terre et les cieux, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Là, donc, on voit déjà que le plan de Dieu, c'était de mettre l'homme au travail. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Amen. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y avait ces deux arbres-là au milieu du jardin. Et donc on va voir plus loin. Donc un arbre de vie, un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, plus tard, donc Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Donc c'est déjà là, le Seigneur, comme je vous dis, avait prévu que l'homme ait une fonction, c'était de cultiver et de garder ce jardin merveilleux. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Voilà, un homme averti en vaut deux. Donc, Adam était averti. Et sans doute vous êtes dit, parce que je pense que je ne suis pas le seul comme ça, à dire, bon, j'aurais été à la place d'Adam, peut-être que j'aurais mieux fait. Mais plus ça va, plus je pense que je n'aurais pas fait mieux. Et en fait, on peut se dire aussi, mais Seigneur, pourquoi tu as mis cet arbre ? Pour tenter l'homme, quoi. Et vous savez que l'amour de Dieu est inconditionnel. Il nous a laissé cette liberté, quoi. Et la liberté que Dieu nous a donnée, c'est d'avoir auprès de nous, effectivement, des occasions de lui désobéir, malgré les informations, malgré l'ordre qui peut nous être donné. Ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est de nous laisser libres de nos choix. Et le Seigneur nous a laissés libres de nos choix. Vous le savez ? On est toujours libres de nos choix. Mais plus ça va, plus on est responsable de nos choix. Alors, l'arbre de la vie, alors, l'autre diapo, ah non ? Non, bon, reviens en arrière. Je vous ai dit que j'ai résumé. L'arbre de la, donc la mort ou la vie, mais l'arbre de la vie, pour moi, on pourrait le définir comme vraiment un véritable arbre avec des propriétés chargées de donner la vie éternelle. Donc, comme le fruit, on va consommer ce fruit de l'arbre de la vie et recevoir la vie éternelle. Ça vous fait penser à quelque chose ? Il était au centre du jardin. Adam pouvait observer et manger les fruits de l'arbre de vie pour vivre de cette vie éternelle. C'est, on peut l'appeler aussi un arbre de la confiance, un arbre de la foi, de l'obéissance, de la soumission volontaire à la vie de Dieu, donnant des fruits d'amour, de joie, donc on peut penser aux fruits de l'esprit, de paix, de patience, etc. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on peut l'appeler, dans sa version la plus négative, l'arbre de la défiance, de l'incrédulité, de l'insoumission, de l'indépendance, de la convoitise, de la séduction. L'arbre du jugement aussi, qui révèle la pensée de Dieu sur le fruit de cet arbre, donnant à l'homme la notion du bien et du mal. Et plus tard, l'homme va aussi pouvoir, enfin, malheureusement, s'en servir comme un arbre de jugement. Et aussi, donc, on pourrait dire deux arbres, un qui donne la bénédiction et l'autre qui donne la malédiction, quoi. Je pense que c'est assez clair pour vous aussi. Alors, la diapo suivante, Serge, s'il te plaît. Alors, quand j'étais enfant, vous savez, j'ai toujours aimé les arbres, donc ça continue. J'étais interpellé par deux arbres qui se ressemblaient, mais qui n'étaient pas de même nature. Donc, vous avez sans doute fait l'expérience comme moi. Dans les cours d'école, il y avait des marronniers, et puis, peut-être des châtaigniers, mais des châtaigniers, il y en avait à la maison. Alors, je disais, c'est quand même bizarre. Il y a un arbre qui a des fruits qui sont gros, faciles à décortiquer. Et puis, de l'autre côté, il y a un arbre qui est comestible, qui est bon, vraiment bon, hein, mais qui pique quand on y met les doigts. Vraiment, deux arbres semblables, mais deux arbres différents. Un qui est bon à manger et l'autre, il n'est pas bon à manger, en tout cas pour nous. Il a d'autres vertus, mais il n'est pas bon à manger. Cette similitude, on peut l'avoir des tentations et de se laisser tromper aussi par des choses qui sont similaires, mais qui sont quand même bien différentes. Et donc, on va voir dans Genèse 3, si vous voulez le prendre, de 1 à 9. Donc, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Ça, c'est étonnant, hein ? Elle l'a vu simplement et elle a eu ce discernement de voir que l'arbre était bon. Donc ça a pu attiser la convoitise. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. C'est étonnant comment Adam a oublié l'ordre du Seigneur. C'est vrai que tout pouvait s'arrêter là. Notre ancêtre Adam pouvait avoir dans son cœur cet ordre bien écrit, c'est sûr qu'il l'avait. Il l'avait bien transmis aussi à Ève. Et comment Adam a pu lui aussi se laisser séduire. Mais bon, c'est aussi l'intimité entre un homme et une femme, et quelquefois de choisir entre Dieu et notre épouse. Il y a des choses qui sont quelquefois difficiles. Et comment Adam, lui, s'est laissé emporter. Mais en tout cas, il l'a fait, et ne pensant pas, tous les deux, ils étaient... Alors, quand on lit tout cet épisode-là, vous savez qu'ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte, qu'ils nous aient dit. On dit que c'est vraiment une période où ils étaient parfaitement innocents. Une innocence du péché, le péché n'était pas en eux, bien sûr, mais une innocence de... Ils n'avaient rien à craindre, Dieu était avec eux. Et cette innocence-là, on a besoin de la retrouver quelquefois. Et donc, ils ne pensaient pas aux conséquences qui allaient venir, quoi. Donc, les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela et lui dit « Où es-tu ?» Et je vais m'arrêter là. Donc, bien sûr, cette histoire, vous avez eu sûrement l'occasion d'en avoir des commentaires. Elle est profonde et nous enseigne beaucoup de choses et continue de nous enseigner des choses. Et donc, dans Genèse 3, 22 aussi, il est indiqué que l'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et donc, Dieu a mis une limite au péché. Et donc, il a aussi, par là, annoncé le plan du salut, parce que tout de suite, il dit... Donc, dans Genèse 3, 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi, » quand il parle au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Annonçant déjà que Jésus allait venir par une femme qui serait enceinte et qui souffrirait aussi, parce que donc il lui parlait aussi de que son talon serait blessé, donc il y aurait une lutte entre Satan et Jésus, qu'il y aurait une lutte aussi entre Satan et nous-mêmes. Et donc, quand on parcourt toute la Bible, on voit que tout a un lien, et on retrouve dans l'Apocalypse, à nouveau, la notion de l'arbre de vie, et dans l'Apocalypse 2, verset 7, « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » Le Seigneur a annoncé le salut. Le salut est venu jusqu'à nous. Et cette réconciliation a été rendue possible. Et donc, pour nous, enfants de Dieu, nous attendons ce moment. Et dans Apocalypse 22, il nous en est parlé également, de cet arbre de vie planté et auquel nous pourrons, nous pourrons goûter, qui est un arbre de guérison. Donc, le constat en 2015, c'est loin derrière. C'est de voir que, bien sûr, les yeux de l'homme et de la femme se sont ouverts. Bien sûr, ils ont fait des choses bonnes, des choses beaucoup moins bonnes, et des choses bonnes, quelquefois, au départ, sont devenues mauvaises. Et je pense à la cartographie du génome humain, qui est un progrès extraordinaire et qui donne des voies, des possibilités de guérison sur certaines maladies qui sont très importantes, mais on sait aussi que ça laisse la liberté à des gens malveillants de faire des manipulations génétiques, et là, on ne sait pas où on ira. On peut parler aussi, parce que c'est l'actualité nous le rappelle, puisqu'on est dans ce moment de la COP21, des désordres climatiques qui occasionnent bien des troubles sur la planète. Il y en a d'autres de ce genre de troubles qui vont organiser enfin, ou engendrer des mutations, enfin, des migrations d'hommes et de femmes vers des pays plus protégés. Mais on voit à travers ce qui se passe pour les migrants qui viennent de Syrie ou d'Irak, ces gens-là sont repoussés à la mer et de l'autre côté, ils sont repoussés aussi. Ça, ce sont des cercueils sur la Méditerranée. Où est le progrès de l'homme ? Où est la connaissance de l'homme, qu'est-ce qu'il en a fait. Donc, il y a des choses auxquelles l'homme a touché et il n'était pas en mesure de les contrôler. Et en Corinthiens 1:20 nous dit « Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde ?» Et nous savons que chaque génération s'en rend compte, peut faire les constats que je fais là. Et malheureusement, nous cherchons à corriger les erreurs des générations passées, mais en commettant à nouveau d'autres erreurs. Et je veux attirer votre attention sur... Le Seigneur savait ce qu'on pouvait faire, quelles sont nos capacités et ce qu'on peut gérer facilement sans crainte. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre, effectivement, où d'y toucher, de le rechercher, entraîne pour nous des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Proverbe 9, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu Saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence, le connaître et recevoir de sa connaissance, celle qui a démasqué le péché en nous et de révéler la perfection du plan de Dieu, son salut pour nous. Et donc, tu peux rester sur la diapo précédente. Et le chrétien, qu'est-ce qu'il peut en faire de cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait parler. Moi, j'ai choisi d'en retenir que deux. Il y en a un dont je vous ai parlé souvent, c'est l'arbre du jugement. Et retenez-le, je ne vais pas en parler, mais on a effectivement, le Seigneur nous dit ne pas juger, mais par contre, on se complaît quelquefois à juger. Et que le Seigneur garde nos cœurs, garde nos bouches, parce que à travers ce qui se passe là, on se frotte à un péché potentiel. À chaque fois qu'on a connaissance de quelque chose, qu'on entend quelque chose, je pense que plus tôt on va se mettre en prière, mieux ce sera que de dire « ah oui, mais », etc., et de commencer un système qui est un système pervers de jugement. Donc, il y a deux significations dont je voulais vous parler ce matin, c'est l'arbre de l'indépendance et l'arbre de la convoitise. Cet arbre de l'indépendance, je peux vous en parler parce qu'en fait, longtemps, je ne l'ai pas vu dans ma vie. Ça fait plus de 20 ans que j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur, qu'il est venu à ma rencontre. Et je savais quelque part, malheureusement, il reste encore des séquelles, un homme très indépendant. Et quelque part, je savais, cette notion d'indépendance, ça me dérangeait, mais je ne priais jamais, je ne me confrontais jamais à la réalité. Jusqu'au moment où le Seigneur, je dis souvent, le Seigneur fait remonter à la surface des sujets, des problèmes, comme disait Daniel, le rayon de lumière qui arrive sur le meuble, on voit la poussière, et c'est à ce moment-là, quand le problème est remonté, que je l'ai vu de mes yeux, que j'ai vu tous les dégâts que je faisais dans cette désobéissance à Dieu d'être indépendant. Et l'indépendance, derrière, il y a quelque chose de bien scellé. Et qu'est-ce qui se cache derrière l'indépendance? Il y a des choses que vous connaissez peut-être. Je veux faire ce dont j'ai envie, quand je veux, chaque fois que je le veux, avec qui je veux. Je veux être aux commandes, je veux satisfaire mes ambitions, je ne veux dépendre de personne. Les gens me laissent tomber ou m'ont laissé tomber, Dieu me laissera tomber. Je vais m'en sortir tout seul. Et bien sûr, c'était dans ma vie, c'était une somme d'expérience qui avait fait que j'avais forgé ce caractère. Je vous l'ai dit déjà, je pense qu'en fin d'adolescence, j'avais dit, ça c'était des choses qu'on disait, que surtout influencé par la musique rock de ce moment-là, n'appartient à personne. Et mon credo, c'était celui-là. Et donc, derrière, je construisais une vie d'indépendance. Et la rencontre avec Dieu, forcément, le Seigneur a éclairé ça à un moment donné. Pas tout de suite. Il a débarrassé d'un certain nombre de choses. Mais ça s'est fait à un moment où c'était possible de guérir. Et ça, c'est parti tout seul. Et j'arrive à le reconnaître encore maintenant. Et je demande au Seigneur de me guérir, d'aller, de ne pas essayer par mes forces de faire les choses tout seul. Mais vous voyez les raisonnements qu'on peut avoir et comment ça s'imprime dans les vies et comment on a et combien on a besoin de la grâce de Dieu pour guérir de ces choses-là. Donc à travers donc cette révolte, parce que c'en est une, hein, il y a des conséquences. Des suites de déceptions, de désillusions. Et c'était aussi une forme d'orgueil, d'égoïsme, de dire « j'y arriverai tout seul ». Et je peux vous dire que là-dessus, je me suis employé. Jusqu'au moment où je pense que ça a été l'étape de trop, où j'ai voulu faire quelque chose tout seul et que j'appelais un château de cartes quand mes yeux se sont ouverts. Mais c'est là que le Seigneur est venu me toucher. Quand tout s'est écroulé, ce que j'avais mis sur pied avec mes forces, et donc on ne refait pas le passé, mais ce que je veux en tout cas, je ne veux pas revivre ça. Mais par contre, ce dont je veux garder, et c'est que dans les épreuves, le Seigneur nous apprend des choses. Et merci Seigneur pour cette épreuve et bien d'autres derrière. Concernant l'indépendance, il y a alors deux versets dans Jérémie. Jérémie 17, donc 5-6, « Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain et prend des créatures pour appui et qui se détourne et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » C'est le désert autour de lui. Mais plus loin, Jérémie 17, 7, 8. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. Je reprends un passage d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « L'homme dans le miroir », excellent pour les hommes mais aussi pour les femmes, qui se face à face, de se regarder dans le miroir. Le tournant de notre vie se produit au moment où nous cessons de chercher le Dieu que nous désirons, que nous cessons de chercher le Dieu que nous désirons pour trouver le Dieu qui est. Quand nous suivons la voie de l'indépendance, nous essayons de modeler Dieu à l'image qui nous plaît, au lieu de le connaître tel qu'il est. C'est ce qu'on appelait autrefois le culte idolâtre. Ça n'est rien que ça. Donc on peut dire, ceci, cela, ils sont idolâtres. Ils se mettent à genoux devant des statues de bois ou de pierre ou de plâtre. Donc je vais vous amener à sortir quelquefois du carcan religieux dans lequel on se met et ouvrir nos yeux sur la vérité de notre comportement. Bien sûr, je vous ai dit, le Seigneur est patient avec nous et il va faire remonter les choses au moment où elles peuvent être traitées. C'est sa patience, c'est son amour pour nous. ne désirant pas, comme quelqu'un qui voudrait nous soigner à tout prix, nous immobiliser et faire l'opération. Et puis, parce que c'est le moment, il faut que la personne soit débarrassée de ça. Non, le Seigneur a cette patience envers nous, d'amener les choses au moment où il faut. Mais par contre, quand elles viennent, parce que vous savez qu'elles sont là, je ne peux pas dire que je ne savais pas que l'indépendance n'était pas là dans ma vie. Je ne peux pas dire ça. Je le savais. J'avais quelques flashs qui m'éclairaient sur ma nature profonde. Et au moment où j'ai dit oui, Seigneur, c'est grave ça. Je veux dépendre de toi. Et il y a quelque chose qui s'est éclairé dans ma vie. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est du jour au lendemain. Comme si aujourd'hui je priais et le lendemain les choses s'étaient améliorées. Mais j'ai vu quelque chose s'éclairer dans ma vie. C'est que la parole de Dieu devenait claire, beaucoup plus claire à mes yeux. Elle était déjà. Mais elle est devenue beaucoup plus claire à mes yeux. Donc le deuxième arbre, c'est l'arbre de la convoitise. Alors celui-là, il est bien planté aussi. Et même nous, en tant que chrétiens, on peut être séduit. Parce que nous désirons tous une vie meilleure. Il n'y a personne qui dit Amen. Même étant chrétien. Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller plus loin? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie chrétienne? Moi, je désire aller plus loin. Il y a des choses... Bon, bien sûr, c'est... Comme je vous dis, le Seigneur avance pas à pas avec nous. Il respecte notre rythme aussi. Mais il y a des choses que j'ai envie de voir. Il y a des choses que j'ai envie de vivre aussi pour ma vie. Parce qu'il y a des fois, je dis, Seigneur, mais comment je reste encore aveugle sur ces choses? Et nous sommes donc souvent dans une insatisfaisante satisfaction. C'est-à-dire, oui, ça va, oui, c'est vrai qu'on peut dire gloire à Dieu. Notre plus grand trésor, bien sûr, c'est d'avoir rencontré le Seigneur et qui remplit notre cœur. Parce que je ne veux pas m'appesantir avec mon âme qui me tire vers le bas. Mais je veux dire gloire à Dieu pour ce que tu as fait dans ma vie, parce que je sais que tu as implanté cette vie dans mon cœur. Mais j'aspire à mieux. Et notre cœur a le souvenir d'une plénitude bienheureuse quand on était dans le jardin d'Éden. Ça s'est transmis. Et dans notre cœur, il y a ce vide. Et notre communion est totale avec Dieu. Lorsque notre cœur, est rempli et de plus en plus rempli. Quand il vient aussi nous révéler qui nous sommes, combien il nous aime, combien nous avons du prix à ses yeux. Alors ça, c'est pareil, ça a besoin d'être gravé dans les cœurs. Et je suis sûr que le Seigneur, quand vous le demandez, il vient l'écrire. Combien vous êtes précieux, irremplaçable, en 2015, ici, dans la région de Rennes. Et donc, vous savez que Satan est menteur et le père du mensonge. Si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre aujourd'hui. Et donc, dans ce qu'il a dit à Ève, c'est ce qu'il continue de faire. Dieu a-t-il vraiment dit? Vous n'avez jamais entendu ça? Dieu a-t-il vraiment dit? J'ai des doutes sur la parole de Dieu. Ah oui, mais c'était bon à ce moment-là. C'est plus bon maintenant. Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne mourrez absolument pas, vous serez comme des dieux. Et donc, Ève était amorcée parce que, bon, alors pourquoi, pourquoi elle avait cette convoitise? Je ne peux pas vous dire. C'est vrai qu'elle vivait dans la plénitude de la présence de Dieu. Mais il y a aussi dans notre nature cette envie d'aller au-delà. D'aller au-delà. Enfin, moi, je vois une montagne, je vois un massif, j'ai envie d'aller découvrir. Je dois être un cas unique, non? On a cette curiosité de découvrir. Et quelque part, bien sûr que le Seigneur a placé cette curiosité, parce que ça nous pousse à aller plus loin. Par contre, c'est de savoir, dans ce qu'on découvre, ce qu'on en fait. Est-ce qu'on mijote notre affaire tout seul, en indépendant, et qu'on va créer quelque chose, et puis un jour, ça va nous péter à la figure? Ou est-ce qu'on place notre confiance en Dieu en disant, Seigneur, mes plans, je veux que ce soit tes plans. Et non, démarrer nos affaires, puis demander, Seigneur, bénis mes plans. Bénis mes projets. Et le Seigneur, il dit, ce sont tes projets, bénis-les tout seul. C'est vrai que on est forcément donc le nez dessus quelquefois, ben justement quand ça marche pas. Et mais c'est aussi pour nous apprendre. C'est aussi pour nous apprendre. Et je remercie le Seigneur pour son immense patience. Il a des plans parfaits pour nous, mais il est souvent obligé de les revoir parce qu'on complique l'affaire quand même. Hein. Et donc, suite à ces trois mensonges, il y a peut-être ces questions. Non, ça, je reparlerai plus tard, ou pas du tout, d'ailleurs. Et donc, l'ennemi a promis quantité d'avantages, comme une publicité mensongère, comme un beau mensonge bien déguisé, bien emballé. Et ça vient attiser nos besoins. Mais quels sont nos besoins premiers ? À quoi on a besoin de répondre? Quels sont les quelque part ce qui va venir rassasier notre cœur, quoi? Et bien sûr, il y a le besoin d'être accepté, d'être pardonné. Et nous le connaissons en rencontrant Jésus et en le rencontrant tous les jours et en vivant sa grâce tous les jours. Seigneur, je n'ai que toi. Jean 15, 13, 14, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis. Et si vous, il y a un si, oui, il y a une condition. Et le Seigneur nous commande certaines choses aux uns et aux autres. Et si vous faites ce que je vous commande, ce que je vous demande. Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons trouvé le chemin. Le chemin, la vérité, la vérité. Où est la vérité? Jésus est la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dieu est vrai et son amour est véritable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette première expérience de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, de lui donner notre vie en disant, quand nous avons donné notre vie, je le rappelle quelquefois, mais nous savions que nous étions perdus. Nous avons dit, Seigneur, que tu sois mon sauveur, mais que tu sois aussi mon Seigneur, c'est-à-dire mon maître. Le deuxième besoin que j'ai noté, besoin de vivre pour quelque chose qui nous dépasse. C'est Jésus qui donne un sens à notre vie, un nouveau sens. Là où nous étions, moi avec mon château de cartes, vous, je ne sais pas avec quoi, là où ça a échoué, Jésus nous donne un nouveau sens à notre vie. C'est-à-dire qu'il place, il replace les choses dans la bonne dimension, bon niveau de valeur aussi. Et ah oui, c'était mardi soir où Fabrice, est-ce que tu es là, Fabrice? Non, il n'est pas là. Nous a raconté une petite anecdote. C'était donc un ami en Afrique qui lui disait, la richesse, c'est d'avoir du thé, de boire du thé noir. Et puis, quand on est un peu plus riche, c'est d'y mettre du sucre. Et le luxe, c'est d'y mettre du lait. Et puis donc, ben oui, c'est comme ça, sans doute, au pays où ce sont des signes de prospérité, quoi. Et il vient en France, et voilà que, ben nous, on boit du thé noir, mais sans sucre. Ah, et puis sans lait aussi, enfin bon, vous pouvez boire du lait hein, et du sucre, et mettre du sucre aussi. Mais quelquefois, on a un regard sur les choses en disant, c'est vraiment ça que je veux. Et Seigneur, réoriente notre regard, mais on voit que ça vraiment, vraiment, pas beaucoup d'importance, le sucre. Et donc, Jésus lui dit, donc ça c'est dans Jean 14, 6, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, nul ne vient au Père que par moi. » Je me répète là, hein. C'est que vous aviez besoin de l'entendre. Et le besoin de vivre quelque chose qui nous dépasse, oui. Et là, je vis quelque chose qui me dépasse. Je vis quelque chose qui me dépasse, d'être devant vous, là, quand j'aime chercher dans la parole, chercher sur des sujets comme ça, mais c'est une épreuve aussi d'être devant vous. Et dans bien d'autres choses, je dis, Seigneur, mais... c'est pas facile, mais le Seigneur, avec mes maladresses, donne aussi la capacité de, en tout cas, de venir vous exposer certaines choses qu'il a mises sur mon cœur. Ensuite, le besoin de reconnaissance, de signifiance. Vous serez comme des dieux. Ha ha! Vous serez comme des dieux. Donc, quel beau mensonge. Et donc... là-dessus, enfin, ces trois mensonges, ça m'a fait penser aussi aux trois tentations de Jésus dans le désert. Et comment Jésus a répondu? Vous savez qu'il a répondu à chaque fois par la parole, quoi. Il a confronté le mensonge par la parole, par la vérité. Et donc, si Jésus l'a fait, nous, on peut le faire aussi. Confrontons les mensonges par la vérité que le Seigneur nous donne. Et des paroles reçues, des paroles qui sont gravées dans nos cœurs. Et donc, ça, c'est dans Matthieu 4, 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc, le verset 9, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et lui seul, et à lui seul, tu rendras un culte. Amen. Et c'est vrai que toutes ces tentations, tous ces pièges, l'ennemi, il sait là où il y a des manques dans nos vies. On est bancal. Bien sûr, il le sait. Alors, par rapport à ça, ne restons pas seuls dans nos tentations. Donc, il y a l'indépendance. Revenons. Nous sommes dans un corps. Le Seigneur a tissé des liens entre nous. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur pour ne pas rester seul face à la tentation. Et donc, pour terminer... Vous savez que lorsque Dieu s'est aperçu que Adam et Ève ils n'étaient plus là, alors le Seigneur dit, où es-tu? Parce que spirituellement, la relation était brisée. Le Seigneur s'est aperçu de ça. Et il nous appelle, où es-tu ? Comme il appelait Adam et Ève, ils savaient où ils étaient. Ils n'étaient que deux à cette époque-là, comme dit Jean-Marie Ribet. Bah, Seigneur, il n'y en avait que deux, tu ne les as pas perdus quand même. Enfin, et, non, le Seigneur sait où nous en sommes. Il sait où nous en sommes, mais il nous dit, où es-tu ? Où en es-tu ? Avec moi. Où es-tu ? Et c'est un appel pour chacun d'entre nous, bien sûr. Où en es-tu ? Et ce que le Seigneur désire, c'est notre réponse. Il sait très bien où on en est. Et notre réponse comme une participation de revenir à lui et de dire, mais j'en suis là. J'en suis là dans mon indépendance. Seigneur, je sais que tu as mieux pour moi. Et de lui dévoiler, il sait lire nos cœurs, mais de lui parler, de lui dire quel est l'état de notre cœur, comme une confession, comme un retour à lui en disant, mais j'ai besoin de toi dans ces choses-là. Parce que je sais que cette vie, elle ne me rend pas heureux. Et donc, je regarde derrière moi. Donc, Ecclésiaste 7:9, c'est ce qui est affiché. Alors, ça peut nous faire sourire, mais c'est quand même la vérité. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, c'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché bien des subtilités. Ils ont bien compliqué l'affaire. Oui, Seigneur. Et ce qui peut nous encourager, c'est, moi, quand je lis ça, c'est dans le psaume 8, 4 et 5, verset 4 et 5, quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, hein, toutes les merveilles de la création. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Dans cette immensité, cette merveille de la création, qu'est-ce qu'on est ? Et le Seigneur a son regard sur nous. Et il nous interpelle pour très souvent pour dire, mais où es-tu ? Où es-tu ? C'est aussi un retour à l'innocence. C'est un retour à cette foi d'enfant de venir tout simplement. De baisser la garde de nos fausses protections. De ce qui nous a blessés en disant, mais je ne veux plus être blessé. Alors là, je me calfeutre, je rentre chez moi, je veux me protéger parce que j'en ai marre d'être blessé comme ça. Et cette innocence de l'enfant, lui, ne craint pas. Et vous savez que l'amour parfait ne craint pas. Que le Seigneur nous donne cet amour parfait pour ne plus craindre de venir auprès de Dieu. Ce retour à l'innocence simple d'un enfant pour dire, Seigneur, oui, j'entends ce que tu as à me dire et je viens à toi. Amen. On va prier. Oui, Seigneur, ton regard est sur nous, sur chacun de nous, Seigneur. Sondant ce qui est le plus profond dans nos cœurs, Seigneur. Sondant ce que nous cachons. Sondant ce qui nous fait souffrir. Seigneur, nous nous sommes séparés de toi. Nous avons continué malgré tes avertissements. Nous avons continué à vouloir goûter de cet arbre de séduction, de convoitise, d'indépendance. Aïe, Seigneur, viens mettre dans nos cœurs la plénitude de ton amour, que nous puissions redécouvrir, Seigneur, avec innocence, combien tu nous aimes, combien tu désires, Seigneur, venir nous délivrer de toutes ces choses qui ont blessé nos vies, qui les ont esquintées, qui font qu'il y a une barrière entre toi et nous, entre nous aussi, Seigneur, et nos amis et ceux qui sont autour de nous. Seigneur, tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre, Seigneur. Je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Que ta vérité nous rend libres, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chacun de mes frères et sœurs, de chacune des personnes qui sont là ce matin, de déposer ton message de vérité et d'amour et de libérer les captifs en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.